Va bien ce matin?
Oui.
Il y a trop de bancs vides en avant là. Est-ce que vous voulez que je parle à des bancs vides ou bien je voulais que je parle avec vous? On dirait que vous avez peur de l'avant là. Les gens ont peur d'ici, hein, n'est-ce pas? N'ayez pas peur. Alors ce matin, nous bénissons le Seigneur de la vie qu'il nous donne. Et nous avons la possibilité, par la grâce de Dieu, de pouvoir parler de 2009. La meilleure année de ta vie ou de ma vie. 2009? Ah, vous écoutez alors. C'est bien ça. Alors, donc, 2019, la meilleure année de ma vie. Mais ça peut, tu peux l'appliquer à toi aussi, de ta vie. Et cette série a commencé depuis quelque temps. Et c'est notre frère Trevor et Denis Gay qui ont partagé, qui ont donné des enseignements sur cela, avant que je n'arrive aujourd'hui, pour pouvoir apporter ma part de contribution qu'on m'a demandé dans la cédule. Et nous allons regarder comment nous pouvons tirer le meilleur de 2019. L'année 2019, tu la commences comment? Tu la vis comment? Et nos frères qui nous ont précédés nous ont dit ceci. Le livre de Josué, quand on a regardé, on est parti à partir de cela, le livre de Josué nous enseigne réellement, nous donne réellement des motivations, comme on peut le dire ici. Alors, qu'est-ce que ce livre nous dit? Il nous motive à triompher dans la vie chrétienne. Le livre de Josué, c'est un des points qu'il nous montre. Il aide les croyants à prendre possession de Canaan, la conquête de Canaan, qui va se faire sur une durée de 7 ans. Alors, ici, Josué et ses vaillants hommes doivent rentrer dans Canaan. Alors, nos frères nous ont parlé réellement de cela. Alors, Trevor et Denis n'ont pas arrêté de mentionner, ils nous ont dit 2 points qu'il faut retenir ce matin. Ils nous ont dit que la victoire est possible pour ceux qui désirent ou ceux qui ont le désir de posséder ce que Dieu veut pour eux. Ce matin, est-ce que tu veux détenir ce que Dieu veut pour toi? Dieu a fait des promesses pour chacun de nous. Dieu a fait des plans de vie et des plans de paix pour chacun de nous. Mais est-ce que tu veux l'obtenir? Est-ce que tu veux rentrer en possession de cela? Dieu t'a créé, il ne t'a pas appelé en Jésus-Christ pour que tu sois maussade tous les jours. Il ne t'a pas sauvé pour que tu aies une vie fade comme une sauce sans sel. Il veut te donner une vie de joie, une vie de bénédiction, une vie épanouissante, une vie dans laquelle tu vas dire tous les jours, tu vas bénir le nom de l'Éternel ton Dieu. Alors donc, on nous a parlé de cela. La victoire est possible pour ceux qui ont le désir de posséder ce que Dieu veut pour eux. Et Denis Gay nous a parlé du deuxième point. La victoire est possible pour ceux qui cherchent la sanctification. Oui, je veux une meilleure année 2019. Je veux tirer le profit, le meilleur de l'année 2019. Mais on devrait dire, je veux avoir toute ma vie comme ça. Toutes nos vies doivent être une vie remplie de la présence de Dieu qui désire ce que Dieu veut pour eux. Et toute notre vie, nous devons continuer de vivre la sanctification. Il n'y a pas à dire un jour, « Ah, je me sanctifie aujourd'hui parce que j'ai besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. » Mais quand il va me donner, après, je ne me sanctifie plus. Je vis ma vie comme je veux jusqu'au jour où j'ai besoin, alors je me resanctifie pour venir demander. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre? Hein? C'est qu'on prend notre douce tous les jours, non? Bon, certains, une fois par semaine, une fois tous les 3 jours, mais la Bible veut que nous, et j'ai dit la Bible veut, naturellement, on veut se laver tous les jours si c'est bon. Mais ici, la Bible veut que nous vivons constamment dans la sanctification. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Quand tu viens à l'église, ce n'est pas comme au restaurant, tu es là, et tu prends le menu, et puis tu peux sélectionner dedans pour dire, je mange ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je veux ça, je veux ça. À l'église, ce n'est pas comme ça. C'est tout ou? C'est tout ou? Rien. Il n'y a pas un que tu peux laisser. Dans la parole de Dieu, c'est l'ensemble. Alors, donc, ils nous ont parlé de ça. Maintenant, ce matin, moi, je crois que nous allons rentrer Nous allons poursuivre réellement la série d'enseignements qui a commencé en étudiant dans Josué chapitre 6, qui démontre que la victoire est possible pour ceux qui s'appuient sur la sagesse de Dieu. Ça, c'est le thème qui m'a été confié. La victoire est possible pour ceux qui s'appuient sur la sagesse de Dieu. Et nous voulons tous avoir des personnes sages. Nous voudrons avoir des amis sages. Nous voudrons avoir une femme sage, un mari sage, des enfants sages, des patrons sages. On veut tout avoir. Quand la personne est sage, on aime ça. Oui ou non? Tout le monde veut ça. Mais la question, est-ce que nous travaillons, quel est notre rapport avec la sagesse de Dieu? C'est ça qu'on va parler. Et qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, selon le psaume 111, nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ceux qui observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La sagesse, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Déjà, quand tu commences à avoir ce respect profond pour Dieu, la crainte là, on ne parle pas de la terreur, on parle de la saine crainte. Ce profond respect que tout homme doit avoir pour Dieu, que toute femme doit avoir pour Dieu. Quand tu commences à avoir cela, alors on dit, tu commences à être sage. Mais quand on méprise la sagesse de Dieu, la crainte de l'Éternel, donc ça voudrait dire qu'on n'est pas sage. Et l'Écriture nous dit ailleurs que l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Dans son cœur, il dit Dieu n'existe pas. Alors ceux pour qui Dieu n'existe pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils mènent leur vie comme bon les semble. Mais quelqu'un qui croit que Dieu existe vit et mène sa vie en perspective avec la voix de Dieu, avec la pensée de Dieu, avec les décisions de Dieu et avec la loi de Dieu. Mais quand dans mon cœur déjà je pense que Dieu n'existe pas, alors je me dis que je n'ai pas de compte à rendre, je n'ai pas besoin de son avis, je prends mes décisions comme je le veux et puis je vais où je veux, je m'en fous de lui. Et quand je fais comme ça, c'est le naufrage. Alors ce matin, nous aimerons vous encourager, nous exhorter ensemble que 2019, nous devons prendre, tenir compte de l'avis de Dieu, la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu, que la victoire est possible. Je ne te connais pas ce matin, je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être tu passes des moments difficiles, tu crois que ce n'est plus possible pour toi d'être épanoui. Tu penses que tu ne le seras jamais. Ton foyer traverse des moments difficiles. Ta famille traverse des moments difficiles. Tes enfants traversent des moments difficiles. Dans ta carrière, tu ne montes jamais. Tu es tout le temps en bas. On te piétine tout le temps. On est en train de te reprocher toujours des choses. Peut-être tu penses comme ça. Tu penses que le reste de ta vie sera un échec. Mais je veux que ce matin, par la grâce de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, si tu crois, Dieu peut changer les choses dans ta vie. Si tu crois ce matin, tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. Si tu crois que la victoire est possible pour ceux qui marchent, pour ceux qui s'appuient sur la sagesse de Dieu, si vous croyez à cela ce matin, je vous assure que votre vie ne sera plus la même. Des données vont changer. Des choses vont prendre place dans votre vie. Amen. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. La sagesse. Mais quand nous voulons rentrer dans cela, notre passage c'est Jéricho. Notre texte nous parle de Jéricho. Nous allons parler de Josué chapitre 6, de verset 1 à verset 27. Mais je ne pourrai pas faire tous les versets, mais on va prendre sélectivement certains points pour pouvoir répondre à cela. Qu'est-ce qui se passe? Josué se ramasse réellement devant Jéricho. Mais avant d'arriver à Jéricho, Moïse, qui était le serviteur de l'Éternel, avait conduit Israël depuis l'Égypte pour les amener à la frontière de Canaan. Et Moïse meurt. Si Moïse meurt, est-ce que le plan de Dieu s'arrête? Moïse est mort, le plan de Dieu ne va pas continuer? Non, le plan de Dieu continue. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Personne n'est indispensable à l'œuvre de Dieu, y compris moi-même. Personne. Si le grand Moïse, l'homme de Dieu, qui a parlé avec Dieu face à face, est mort et l'œuvre de Dieu a continué, crois que si tu n'es plus là, l'œuvre de Dieu continuera. Elle a commencé sans toi, elle fonctionnera avec toi ou sans toi et elle fera sans toi. Amen. Et je bénis Dieu parce que si l'œuvre de Dieu dépendait de moi, je pense que beaucoup de choses ne fonctionneront pas dans le monde. Parce que tout ne fonctionne pas bien même dans ma propre vie. Alors, donc, beaucoup de choses ne fonctionnent pas, ça ne serait pas parfait. C'est pourquoi je bénis Dieu, que c'est Dieu qui a le contrôle de son Église. C'est lui qui bâtit son Église, c'est lui qui va faire croître son Église. Amen. Donc, avec nous ou sans nous, l'œuvre de Dieu avancera. Mais s'il nous met dans son plan, s'il nous met dans son œuvre, c'est un privilège et non un droit. Amen. Si tu vois ça comme un droit, tu es à côté de la plaque. C'est un privilège si Dieu t'utilise. Parce qu'il pourrait utiliser même un âne sans toi. Amen. Quand je dis un âne, là, je ne parle pas de ma femme. Hein. Je parle un animal, là. Amen. OK. Alors, ils vont ravir en ce moment-là. Moïse est parti. Josué est maintenant devant Jéricho. Avant d'arriver à Jéricho, Dieu va dire à Josué, « Lève-toi, Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. C'est toi qui vas rentrer dans le pays avec le peuple que j'ai promis de donner aux enfants d'Israël. Alors, personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi. Toute terre que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession. » Amen. Dieu dit ça à Josué. Et Josué se lève avec le peuple. Il a confiance à Dieu. Il est galvanisé avec ses hommes. Et puis, ils s'en vont, ils traversent le Jourdain. Mais avant de traverser le Jourdain, ils ont dû se sanctifier parce que pendant 40 ans, pendant 38 ans, on pourrait dire, ils sont restés dans le désert. Beaucoup de gens n'ont pas été circoncis. C'est ce que Denis Gué nous a parlé la dernière fois. Alors, il fallait observer la circoncision qui était une forme de sanctification avant de rentrer en possession du pays. Alors, ils se sont mis hôtes. Clean, on pourrait dire comme ça. Et puis, ils vont rentrer, ils vont traverser le Jourdain pour commencer. Là, quand Josué se trouve devant Jéricho, l'Écriture nous dit, nous pouvons aller regarder dans Josué chapitre 5, s'il vous plaît. Verset 13, à partir du verset 13, on va lire ça jusqu'au verset 15. La parole de Dieu dit ceci. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre côté, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba sur le visage, contre terre, se prosterna, et lui dit, qu'est-ce que mon serviteur dit à son serviteur? Mon Seigneur dit à son serviteur. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alors, Josué était en train de chercher une solution. Comment rendre Jéricho? Et quand nous regardons tout juste en bas de ce texte, le verset 1 du chapitre 6 introduit, on nous dit « Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. » Voilà le contexte dans lequel, l'obstacle devant lequel Josué se trouve. La première ville à prendre pour rentrer en possession du pays que Dieu a promis à Abraham dans Genèse. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va dans un endroit où moi je te dirai. Et Abraham va quitter. Il dit, je te donnerai un pays qui sera non seulement pour toi, mais pour toi et ta postérité. Cette promesse qui a été faite depuis plusieurs années avant, alors voilà Josué est en train, plusieurs générations plus tard, sont à la porte pour prendre possession de la promesse qui a été faite depuis plusieurs années avant. Alors c'est là, quand Josué fait comme ça, l'ange de l'Éternel le rassure. L'ange de l'Éternel, c'est qui? On nous dit, dans la théologie, certains vont dire Christophanie ou la théophanie. C'est-à-dire, c'est l'apparition de Jésus-Christ avant son incarnation. Ça, c'est l'ange de l'Éternel. Vous allez vous rendre compte, quand il dit « ôte les souliers de tes pieds », ça vous fait référence à Moïse dans Exode, devant le buisson ardent. Dieu dit, Moïse, enlève tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Alors, on dit la même chose, et c'est l'ange de l'Éternel. Tout le temps, quand vous allez voir l'ange de l'Éternel, il s'agit généralement de Dieu qui se présente à ses serviteurs. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Josué? Josué, le général de l'armée, qui a combattu sous la direction de Moïse. Maintenant, c'est lui qui est le leader, qui doit conduire le peuple. Voilà qu'un autre leader apparaît pour lui dire, Josué, tu étais le serviteur de Moïse. Maintenant, tu vas être mon serviteur, tu vas te mettre, c'est moi qui vais diriger les combats. Quand il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, ça voudrait dire quoi à Josué? Moi, là, je suis plus grand que toi. Alors, tu vas te mettre à mes ordres et on va prendre le pays ensemble. C'est moi qui vais dicter désormais comment le combat va se dérouler. Et Josué se prosterne et il se soumet à ce que ce général-là a dit. Il aurait pu dire, ben voyons, toi, tu viens d'où? Tu es qui, toi? Mais vous voyez, Josué avait l'habitude de parler avec l'Éternel. Il a reconnu en lui l'Éternel. Je vous demande, quand vous êtes face à des situations difficiles ou à des décisions à prendre, quand Dieu vous parle, êtes-vous capable de discerner la voix de Dieu de vous-même? Êtes-vous capable de vous soumettre à l'autorité de Dieu? Quand l'Éternel vous dit, je suis l'Éternel, voilà ce que je déclare par rapport à ta vie. Je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses cela. Est-ce que tu le fais? Est-ce que nous le faisons? Vous allez me dire, mais Adama, écoute, Dieu ne m'a jamais parlé. Mais je vais te dire, Dieu te parle tous les jours. Chaque fois quand tu lis la Bible, c'est Dieu qui te parle. Et ce qu'il te dit là, est-ce que tu le fais? Est-ce que nous le faisons? Amen. Chaque fois quand tu lis la Bible là, c'est Dieu qui te parle. Dieu, il ne descendra pas du ciel pour venir te parler comme il a parlé à Josué. Pourquoi? Parce qu'il a donné la révélation parfaite maintenant qui est complète. Il te donne cela. Tu n'as même pas fini d'appliquer tout ça. Il y a certains qui disent, non, la Bible, non, on ne veut pas savoir ça. On veut que Dieu nous parle. On est en connexion avec lui. Moi, Dieu me parle et puis je vous dis des prophéties et c'est comme ça que ça va se passer. Je crois que Dieu peut donner des prophéties partiellement de temps en temps. Je pense que Dieu peut donner une parole de connaissance, mais ce n'est pas une parole de connaissance pour remplacer la Bible. Et s'il te donne une parole de connaissance qui ne confirme pas cela, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Amen. Alors donc, nous ne pouvons pas nous baser sur cela. Nous devons lire la parole et l'appliquer, laisser Dieu nous diriger. Et Josué se soumet. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? La stratégie pour prendre Jéricho. L'Éternel, c'est lui qui va le révéler. Nous allons lire le verset 2 à 5 du chapitre 6. Pour ceux qui ont encore leur Bible dans leurs mains ou les Bibles électroniques. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. » Sept sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Dieu montre à Josué comment les choses vont se dérouler. Il lui dit, Josué, voilà ce que je te dis. Vous allez faire le tour de la ville. Tu vas prendre des sacrificateurs. Tu vas prendre des trompettistes comme André Denis là. Tu vas les mettre en avant. Ils vont sonner de la trompette. Et puis, quand vous allez finir de faire le tour de la ville là, je t'assure que les murailles vont tomber, puis vous allez gagner. Josué, avant de commencer le combat, Dieu lui donne la victoire. Il dit, je livre le roi, la ville, son roi et ses vaillants hommes. Ça voudrait dire que quoi? Que Jéricho n'était pas un petit royaume. On dit que c'était barricadé. Personne ne rentrait, personne ne sortait. Je ne sais pas s'ils avaient un couvre-feu tout le temps là-bas. En tout cas, c'était comme ça. Mais la stratégie que Dieu donne à Josué, jamais dans le monde, aucune armée n'a combattu comme ça. Aucune armée ne peut combattre de cette manière-là et gagner les batailles et les combats. Ça n'existe pas, nulle part. Même dans nos villages en Afrique, au fond là, les gens, ils ne combattent pas comme ça. Amen. Mais Dieu va donner une forme de combat, une stratégie pour combattre. Et puis, ils vont gagner. Ce qui m'étonne, Josué, le général qui a beaucoup d'expérience de combat, ce n'est pas un novice là. C'est quelqu'un qui a combattu avec Moïse, sous l'autorisation de Moïse, pendant 40 ans, dans le désert. Donc, il sait ce que c'est que le combat, il connaît la nature du combat, il connaît les dangers qui sont là. Il pourrait dire, hey, Seigneur, soyons sincères là. Est-ce que tu es certain que tu voulais qu'on va faire un combat comme ça? Es-tu vraiment certain que c'est ce que tu veux? Bon, moi, selon mon expérience là, quand on est allé à Moab là, voilà ce qu'on a fait. Quand on a pris Amalek là, voilà ce qu'on a fait. Mais j'aimerais te partager mon expérience quand même là, parce que ce n'est pas comme ça qu'on combat. Josué aurait pu dire ça à Dieu, mais il n'a pas dit ça. Il a laissé Dieu, il a dit, c'est Dieu qui dit, on se soumet et on va faire le combat. Il va mener le combat et il gagne. Amen. Il mène le combat, il gagne. Ce qui est intéressant. Alors donc, s'il mène le combat, il gagne. Israël a gagné le combat sur quelle base? Nous avons dit que la sagesse, Dieu agit avec sagesse. Il a un plan parfait pour son peuple. Mais si nous voulons que 2019 soit une année de victoire pour nous, basant notre marche et notre foi sur la sagesse de Dieu, comment devons-nous le faire? Comment pouvons-nous le faire? Avec quoi devons-nous le faire? Alors, là, ça nous amène à ceci. Le livre de Josué nous parle, une vie en sagesse se démontre par la foi. Par une foi premièrement confiante, une foi persévérante, une foi obéissante, une foi audacieuse. Il va démontrer sa foi premièrement par une foi confiante. Qu'est-ce qu'ils font? Regardons le texte ensemble ici. Josué chapitre 6, verset 6. Josué, fils de Nun, après avoir entendu tout ce que la stratégie que Dieu lui a donnée, Josué, il ne reste pas. On dit Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'Alliance et que sept sacrificateurs portent les sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes en armes passent devant l'arche de l'Éternel. Quand il a fini de parler, il n'a pas traîné les pieds. Il est allé rassembler tout de suite les sacrificateurs et les personnes concernées. Parce que c'était une guerre spirituelle, un combat spirituel. Il doit prendre une forteresse. Alors, il réunit ses hommes. Il commence à marcher. Josué n'a pas mis en doute la parole de Dieu. Il a eu confiance. Il a eu confiance pleinement à la parole de Dieu. Alors si nous voudrons vraiment que l'année 2019 soit une année de victoire pour nous, nous devons avoir une foi confiante. Une foi qui a confiance à la sagesse de Dieu. Une foi qui ne vacille pas. Une foi qui ne doute pas à la parole de Dieu. Une foi qui marche selon ce que Dieu demande. Ils n'ont pas douté. Josué n'a pas douté. Il a tout de suite appelé ses hommes. Et il a appelé le peuple. Nous pouvons appeler ça une foi communautaire. Une foi en groupe. Ces gens-là auraient pu dire, Josué, regarde, habituellement, on a combattu comme ça, tu viens nous donner un autre plan dans lequel on n'a jamais cru, on ne connaît pas. Mais ils ont cru, ils se sont levés, ils ont suivi Josué. Ça ne marche pas, c'est venu. Ils ont eu une foi confiante. Dans le verset 12, on voit encore, pour montrer qu'ils avaient une foi confiante, on dit Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche, ils sonnèrent des trompettes. Et les hommes en armes marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Verset 14. Ils firent une fois le tour de la ville, une seconde fois, et ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. 6 jours. C'est-à-dire qu'ils ont fait le tour. Quand Dieu a dit « faites le tour », ils se sont levés, ils ont fait le tour. Avec tout, en tenant compte de la méthodologie, en tenant compte du logistique que Dieu leur a donné. Ils les ont ordonnés, même comme ça, pour pouvoir faire les choses. pendant 6 jours. Ce n'était pas une marche de santé qu'il prenait. Hein. Ce n'était pas une marche de santé. Ce n'était pas aller se pavaner au centre-ville. Hein. Ils étaient en train de faire le tour parce qu'ils étaient en bataille. Ils étaient en guerre, une guerre spirituelle. C'était les forteresses qu'ils doivent prendre. Jéricho, c'était un lieu occulte aussi. N'oubliez pas, quand on parle de Cana, on parle d'un pays d'idolâtrie. Moïse et Abraham est sorti de là. Alors, on dit pays d'idolâtrie. Alors, il fallait combattre cela. Et Dieu prend Israël de l'Égypte, il les amène là-bas pour les installer, pour qu'ils soient une lumière, pour influencer les nations de la terre. Alors, là, ils n'étaient pas en train de faire une marche de santé. Ils ont organisé les choses. Ils n'ont pas mis les choses à bragadabra, à broche à foin, comme on dit au Québec. Ils n'ont pas fait comme ça. Parce que des fois, les gens nous disent, ah, l'Église est trop organisée. C'est trop structuré. Il ne faut pas mettre de structure. J'ai dit, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Heureusement que Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'a pas placé tes yeux dans les plantes de tes pieds. Sinon, tu ne marcheras plus, tu ne verras pas. Alors Dieu, même quand il t'a créé là, il a mis de l'ordre dans ton corps. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Mais pourquoi il faut avoir un ordre dans la maison de Dieu? C'est pour le bien du peuple et non contre le peuple. On ne met pas des lois pour que ça soit des carcans pour le peuple. On met des lois pour que ça puisse être fluide et qu'on puisse marcher ensemble. Alors Israël va marcher selon l'ordre que Dieu va établir. Ils auraient pu dire, bon, écoute, les sacrificateurs là, vous pouvez rester chez vous à la maison. Les hommes de guerre vont aller, ils sont habitués à la guerre. Vous restez avec l'arche de l'Éternel à la maison. Nous, on va mener le combat. Non, ils ont fait ce que Dieu a dit. Je te pose la question, et elle est aussi valable pour moi-même. Quand on ordonne des choses à faire, fais-tu les choses de la manière que Dieu te demande, ou bien tu le fais à ta façon, à toi? On dit, ouais, mais Seigneur, tu as dit comme ça. Mais moi, je suis trop inspiré, je vais faire à ma manière. Je suis en train de dire, Dieu, tu n'es pas assez intelligent. Moi, j'ai de la sagesse, je suis un scientifique. Je sais quoi faire et je vais arranger ton affaire là pour toi. Sagesse de Dieu. Si nous marchons en basant notre foi sur la sagesse de Dieu, nous remportons des victoires. La victoire est possible. Jésus a fait ce qu'on lui a demandé. Il a eu la foi, lui et ses hommes. Deuxièmement, si nous voulons continuer de gagner, nous devons avoir une foi persévérante. Le peuple n'a pas marché 2 jours, 3 jours en disant « Oh, on est tanné, on va rentrer, il n'y a rien qui se passe. » On ne voit même pas des fissures sur le mur. Le mur est encore dur et solide. Jésus est-il certain que Dieu veut qu'on fasse le tour de la ville? Non. Ils font le tour de la ville. Josué, il continue. On dit quoi? Au verset 6 et verset 15, 16 et 20, on va voir ça. On dit, le septième jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore. C'est-à-dire qu'au lever du soleil là, ils se sont levés avant le soleil. Très tôt le matin. Ils n'ont pas traîné les pieds. Oh, ça ne me tente pas. Eh, Josué, est-ce qu'on s'en va à la bataille ce matin? Oh, ben moi, ça ne me tente pas. J'ai mal dormi hier nuit. Je ne bouge pas. Non, Josué s'est levé. Il est le leader. Avec ses autres frères et sacrificateurs, ils se sont levés. Tôt de bonne heure. Si tu n'as pas bien dormi hier nuit, c'est ton problème. Mais tu vas aller marcher. La bataille, on doit la mener. Parce que le diable ne dort pas. Si toi tu dors, le diable, il ne dort pas. Parce que tu es dans un combat spirituel. Dès le jour que tu as décidé de devenir chrétien, tu as déclaré une guerre au diable. Tu as dit, je ne suis plus dans ton camp, je m'en vais dans le camp de Dieu. Alors le diable dit, ah ouais, tu es certain que tu n'es plus dans mon camp? Tu es vraiment certain? Mais à partir de ce moment, moi je vais mettre des bâtons dans tes roues. Alors si tu es avec Dieu, tu ne peux pas dormir comme n'importe qui. C'est pourquoi la Bible nous dit de veiller et prier. Car votre adversaire, le diable, rôde comme qui? Il veut faire quoi? Un lion, quand il rôde, c'est pour faire quoi? Pensez qu'il veut être gentil avec les proies? Quand il rôde, c'est pour dévorer. Le diable, quand il rôde autour de toi, là, tu penses qu'il veut te donner des tapes sur l'épaule? Non! Il veut rendre ta vie chrétienne pénible. Il veut voler toute ta joie. Il veut voler toute ta passion. Il veut tuer ton zèle par le péché, par des critiques, par des calomnies, par tout ce qui peut se dire autour de toi. Il veut détruire ta vie. Des fois même, il va utiliser des frères et des sœurs pour te dire des paroles qui peuvent te détruire. à leur inconscient, à leur insu. Eux-mêmes, ils ne sont pas conscients. Mais ils se laissent diriger par l'ennemi des fois. Mais est-ce qu'on va les en vouloir? Non, on prie pour eux et on combat le diable. Amen. Parce que si nous voudrons être victorieux dans le Seigneur en 2019, si la victoire est possible, comme on le dit, oui, la victoire est possible pour ceux qui s'appuient sur la sagesse de Dieu. Aimerais-tu marcher avec la sagesse de Dieu? Veux-tu fonder ta foi sur la sagesse de Dieu en ayant une foi persévérante? Ils se sont levés le matin de bonne heure et ils ont commencé à marcher. Le verset nous dit, au verset 17, on dit, la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. L'Éternel leur a livré la ville. Poussez des cris. Ils ont fait le tour une fois, deux fois, six fois, sept fois. Et puis le septième jour, là, on dit, ils ont fait le tour sept fois. Sept fois, j'ai dit, ils sont devenus des Iron Man. Ils ont fait le tour sept fois de la ville. Je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y avait pas des vieillards dedans? Il n'y avait pas des gens qui faisaient l'arthrose, l'arthrite dans l'équipe là-bas? Est-ce qu'ils avaient mal au dos? Il n'y avait pas des gens qui avaient des problèmes de genoux? Mais ils ont fait le tour sept fois. Quand une cause te tient à cœur, la cause est tellement noble que tes besoins, que tu es prêt à payer le prix qu'il faut pour entrer dans la possession de la victoire de Dieu. Amen. Alors, peuple de Dieu, ce matin, comme assemblée chrétienne, avons-nous une foi confiante en l'Éternel? Avons-nous une foi persévérante en l'Éternel, notre Dieu? On continue. Alors, non seulement ils ont eu une foi persévérante, et quand ils ont persévéré, ils ont travaillé, ils ont poussé des cris, alors, qu'est-ce qui se passe? Les murs s'écroulent. La ville est tombée. Là, maintenant, ils ont vu des fissures de leurs propres yeux. Avant, ils avaient entendu parler du projet. Maintenant, ils étaient dans le projet, ils marchaient. Ils n'avaient pas encore vu la réalité. Maintenant, ils sont témoins. Ils peuvent parler que nous avons été témoins. Nous avons participé dedans. Et les murailles sont tombées et nous pouvons en témoigner que notre Dieu est puissant. Rien n'est impossible à celui qui s'appuie sur la sagesse de Dieu. Ils se sont appuyés sur la sagesse de Dieu, qui est de faire le tour d'une ville. Une sagesse qui n'a jamais été déployée. Une façon qui n'a jamais été mise en pratique pendant des années. Personne ne savait faire ça. Mais ils ont accepté. Même si ça paraît fou, même si ça paraît insensé, même si ça paraît que notre Dieu, là, il a pris quelques pilules qui n'ont pas fonctionné, là, il s'est trompé de pilules. Mais ils ont fait. Ça marche. Êtes-vous capable de faire confiance à l'Éternel? Confiance au leader aussi que Dieu met devant vous pour vous diriger. Le peuple a fait confiance. Josué a fait confiance à Dieu. Le peuple a fait confiance à Josué. Ils n'ont pas dit, Josué, on va aller vérifier par nous-mêmes. L'ange de l'Éternel, il faut que tu nous parles. Ce que tu as dit à Josué là, il faut que tu nous dis à nous, sinon nous on ne bouge pas. Est-ce qu'ils ont dit ça? Non. Nous sommes dans une société, comment dire, susceptible, on me dit comme ça? Hein? Qui suspecte tout. Qui ont manque de confiance, ils n'ont pas confiance à l'autorité, n'ont pas confiance à leur femme, n'ont pas confiance à leur mari, n'ont pas confiance à leurs amis, n'ont pas confiance à leurs amis, n'ont pas confiance à leur chat, n'ont pas confiance, en finalement, n'ont même pas confiance à leur voiture ni à eux-mêmes. Alors donc, tout est suspect pour eux. Tout ce que tu dis, il faut qu'eux, ils voient. Et puis après, ces mêmes frères l'avaient dit, « Ah, moi j'ai de la foi. » J'ai dit, « Ouais, tu as de la foi vraiment. » Tu as la foi qui voit d'abord avant de croire. Tu n'as pas la vraie foi. Parce que la foi, la Bible nous dit, la foi, c'est une... La foi, c'est quoi? La foi? Une? Parle fort, mon frère. Oui, la foi est une ferme assurance. Yes, sir, c'est ça. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors si tu attends de voir avant de croire, ce n'est plus la foi. Ça devient la vue. Dans la foi, il y a un symbole de folie dedans. Il faut être fou pour croire. Parce que tu ne peux pas tout démontrer. Si tu attends qu'on te démontre tout par A plus B, comme les scientifiques le font en laboratoire avant de croire, tu ne croiras pas. Parce que Jésus-Christ, là, croire en lui, là, le labo ne peut pas faire des tests sur lui. Amen. On ne peut pas faire des tests sur Jésus-Christ. Alors tu crois parce que la parole a dit. Alors tout cela, quand les murs sont tombés, ils ont été témoins. Désormais, ils sont de véritables témoins pour annoncer que leur Dieu est le meilleur Dieu et le véritable Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut faire. Ce matin dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche de t'épanouir dans la foi chrétienne? Quel est le péché qui te tient captif? Qui t'empêche d'être épanoui? Que tu n'es pas prêt à dire à personne? Que ta femme ne sait pas, que ton mari ne sait pas, que tes enfants ne savent pas, que personne ne sait autour de toi, mais tu souffres. Ça fait que ta vie chrétienne est bloquée. Tu ne peux pas avancer. Là, tu as besoin de la sagesse de Dieu pour décanter les choses. Tu as besoin que Dieu agisse en toi pour que tu sois un homme libre, épanoui, enrichi dans le Seigneur et qui devient une bénédiction pour d'autres personnes parce que Dieu t'a appelé pour que tu sois béni, pour bénir les nations. Il ne t'a pas appelé pour que tu sois amer, frustré et que tu commences à jeter ton venin sur les autres. Il veut que tu sois une bénédiction. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour vous, pour moi, pour chacun de nous. La foi, frères et sœurs, la foi persévérance, c'est une foi qui ne lâche pas. C'est une foi qui continue. Vous avez regardé l'émission, je pense que c'est en 2011, pas en 2011, en 2004, quand il y a eu des Jeux Olympiques, à Los Angeles, ou c'est où, là, en tout cas, je ne me rappelle plus bien. Mais le monsieur, il a couru, et puis il s'est blessé pendant qu'il courait. Mais il a achevé la course. Il a terminé la course. Même son papa est descendu dans le stade pour essayer de le prendre. Il a dit non, non, non. Il s'est débrouillé pour terminer. Quelqu'un qui persévère, une foi persévérante, c'est une foi qui ne lâche pas. C'est une foi qui est tenace. C'est une foi qui tient debout face à l'adversité. Prêt à payer le prix pour arriver à voir les murs de Jéricho s'écrouler. Amen. C'est ça que Dieu veut de nous. Alors, nous regardons une foi obéissante. Le peuple avait une foi obéissante. Et cette foi obéissante, Josué le démontre. Et on le voit. On dit, ils dévouèrent la ville par interdit, au fil de l'épée. Tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Ils voyaient tout par interdit. Et ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. C'est ce qu'ils ont fait. Là, ils ont eu une foi obéissante. Tout ce que Dieu leur avait dit, ils ont fait tout jusqu'à la fin. Ils devaient mettre la ville à feu et personne ne devait sortir de cette ville-là. Ils ont détruit toute la ville. Ils ont tué tout le monde. Aujourd'hui, on va dire, mais c'est un génocide. Oui, c'est un génocide. On pourrait dire comme ça. On pourrait dire que c'est un génocide. Parce que Dieu a rasé toute la ville. Mais on pourrait demander, est-ce que Dieu n'a-t-il pas le droit de faire ce qu'il veut avec sa créature? Est-ce que ce n'est pas lui qui les a créés? Est-ce que la terre et les cieux ne l'appartiennent pas? Y a-t-il un humain sur la terre qui appartient à un autre Dieu que l'Éternel? Tout est à lui et pour lui. Il fait de ses biens ce qu'il veut. Qui êtes-vous pour le juger? Qui peut dire que pour il a fait cela n'est pas droit? N'est-il pas Dieu? Alors il a le droit de faire ce qu'il veut. Mais Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu est un Dieu juste. Parce que c'est son jugement qui est tombé sur ce pays. Et dans le passé, c'était comme ça. Mais maintenant, son jugement est tombé sur Jésus-Christ. Pour que toi et moi, n'est plus à vivre cela. Amen. Dans le Nouveau Testament, c'est ce que Christ est venu. Il est venu mourir à la croix pour nos péchés, pour ne pas que nous ayons à vivre cela. Si tu places ta foi et ta confiance en lui, tu seras sauvé. C'est ce qu'il a fait. Sinon, si le jugement vient, c'est le péril. Ils ont tout détruit. Rien ne devait sortir de cette ville. Mais quelque chose m'a surpris. Il y avait une femme qu'on appelait Rahab. Rahab la prostituée. Elle était nommée comme ça. C'est-à-dire qu'elle était nommée avec son métier. Elle était une prostituée. C'est-à-dire qu'elle volait les maris des autres. Que les gens pouvaient aller venir faire la fête chez lui. Chez elle plutôt. Et c'était comme ça on la définissait. Mais Rahab a réussi à s'en sortir. Dans une ville qui a été dévouée par interdit. Quand on disait dévouée par interdit, anathème, rien ne doit sortir. Et tout ce qui sort de là est maudit. Si tu touches, tu seras maudit. Toute personne qui touche à cela sera maudit. Et cependant, elle, son métier n'était pas accepté par Dieu. Ce n'était pas accepté en Israël. Alors, dans Jéricho, là, elle a réussi à sortir de là. Comment? La Bible nous dit que Rahab a eu la foi en Dieu. Dans Hébreux 11, verset 31, on dit « Rahab, la prostituée, fut sauvée par la foi. Pourquoi? Parce qu'elle a caché les espions que Dieu avait envoyés ou que Josué avait envoyés à Jéricho. Elle les a cachés et elle a dit ceci quand elle a entendu parler de leur Dieu. Elle a parlé que tout ce que elle et son peuple ont entendu parler de... Je peux vous lire ça? On va lire ça. On va aller. On dit « Car nous avons appris comment... votre sortie de l'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og. Et vous avez dévoué par interdit. Nous avons appris, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus et à notre aspect. » Mais le verset qui suit, la suite qui est intéressant, il dit « Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Elle a entendu parler de Dieu d'Israël. Elle a entendu parler des miracles qu'ils ont faits. Elle n'a pas vu, elle n'était pas au milieu du peuple, elle n'a pas marché avec eux, elle n'a pas été témoin avec eux. Mais quand elle a entendu ça, elle l'a cru. Tellement à ce message-là qu'elle a protégé les espions. Ce qui va être une source de salut pour elle. Je te demande, toi tu as entendu parler de Jésus-Christ. Tu as entendu parler de son œuvre. Qu'est-ce que cela change dans ta vie, mon frère et ma sœur? Moi, quand je l'ai entendu, ça a changé ma vie. J'ai cru en lui. J'étais musulman, je priais 5 fois par jour, 36 fois de prosternation. Je cherchais à plaire à Dieu par mes propres moyens, par ma propre connaissance. Ça ne donne rien. Mais quand j'ai entendu parler de Jésus-Christ, ce Dieu qui sauve, il m'a sauvé. J'ai cru en lui, j'ai donné ma vie à lui. Il a transformé ma vie. Et voilà, aujourd'hui je suis avec vous, je peux partager ce que Dieu a fait pour moi. Dieu peut faire la même chose pour toi ce matin. Ne pense pas que ta vie est pire que celle de Rahab. Ne pense pas que ta vie est moins que celle de Rahab. Peu importe ta condition, peu importe la nature de ta vie, peu importe ton passé, Dieu peut transformer ton passé et bâtir un futur meilleur pour toi. Rahab, la prostituée, désormais a été habitée au milieu d'Israël. Elle a été la mère de Joab, Boaz plutôt. Et son mari s'appelait Salomon. Et Boaz, qu'est-ce qu'il va faire? Boaz m'a marié Ruth, la Moabite. Et ils vont avoir qui? Ils vont avoir Isaïe. D'Isaïe, ils vont avoir David. De David, la descendance va venir. Et de David, qui va naître? Le Messie. Dans la lignée du Messie, il y a une prostituée dedans. Alors, qu'est-ce que ça te dit? La grâce de Dieu surpasse nos péchés. Amen. La grâce de Dieu surpasse ton péché, quelle que soit la grosseur de ton péché, la grandeur de ton péché, la profondeur de ton péché. Ce matin, je veux que tu saches que Dieu veut changer ton passé. Il veut mettre une croix dessus. Si Dieu voit un embryon de foi en toi, il dit si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu pourras déplacer les montagnes. Mais ce matin, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu peux devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir la fille de Dieu. Tu peux devenir héritier et héritière de Dieu. Tu peux faire partie de la nation de Dieu comme Rahab a été. Ton passé sera oublié et ton avenir sera bâti. C'est pourquoi ce matin, je vais vous laisser avec ceci parce que mon temps est parti. Parole de Dieu, elle est bonne pour nous. Jésus-Christ est venu mourir à la croix. On dit que les hommes, par la sagesse du monde, ils n'ont pas connu Dieu. Mais il a plu à Dieu de se faire connaître par la folie de la prédication. La folie de la prédication de la croix. La croix est une folie aux yeux de beaucoup de gens. Ils pensent que croire en Jésus-Christ, ce n'est pas à date, ce n'est pas à jour aujourd'hui. C'est dépassé. Quand je parle à des gens dans la rue, ou que je vais des fois à l'université, je commence à témoigner. On me dit, oh, les religions là, vous avez amené trop de troubles dans le monde, là on n'en veut pas. Tous les troubles dans le monde, c'est les religions. J'ai dit, mon œil, tu ne connais pas l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas les religions qui ont fait. Ils ont tué plus de 30 millions de personnes. La Première Guerre mondiale aussi, ce n'est pas les religions qui ont fait. Et ces deux guerres ont tué plus que la religion. Donc tu ne peux pas me dire que les religions sont de ceux qui tuent. Ce n'est pas vrai. Tu ne veux pas croire, tu as le droit de dire que tu ne veux pas croire. Mais dire que la religion, à cause de la religion, il y a la guerre partout, non. Mais moi, de toute façon, je ne te parle pas d'une religion, je te parle d'une personne. Jésus-Christ. Lui, ce n'est pas une religion. Il veut avoir une relation avec toi. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une sagesse et une puissance pour nous les croyants. Nous qui croyons en Jésus-Christ. Ce matin, je ne sais pas, tu as entendu beaucoup de choses. Rahab a été sauvée parce qu'elle a eu foi en Dieu. Les murailles de Jéricho sont tombées parce que le peuple a déployé leur foi en eux. Mais la Bible nous dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce matin, nous avons vu que la victoire est possible pour ceux qui s'appuient sur la sagesse de Dieu avec foi. La foi confiante, la foi persévérante, la foi obéissante et la foi audacieuse, comme Rahab, tu peux faire partie de la famille de Dieu. Prions, peuple de Dieu. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci. Toi, tu es le Dieu de gloire. Toute chose est soumise entre tes mains. Tu es plus sage que chacun de nous, que quiconque. Tu as créé les cieux et la terre. Tu as créé tout ce qui est dans les continents, qui t'appartient, sans demander conseil à personne.